comme ça jusqu'à ce que vienne Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva a expliqué, et Hashem Elohecha Tira, il a restitué tous les et, il a dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, ça veut dire également les sages. Les rabot talmidei chachamim. C'est-à-dire, il faut craindre Dieu, mais il faut craindre également les sages. Alors pourquoi est-ce que Nehemia et Massouni ne pouvaient pas dire ça? Alors Rav Kook explique, parce que Nehemia et Massouni vivaient à l'époque de la naissance du christianisme. Et quand le christianisme est apparu, qu'ils ont orienté la crainte que l'homme doit avoir vers Dieu, envers Dieu, ils l'ont orienté vers un homme, donc il a fallu supprimer radicalement tous les hêtes. Une fois que le christianisme s'était séparé du temps de Rabbi Akiva, alors Rabbi Akiva pouvait réintégrer le hêt, parce que le danger du christianisme était déjà écarté, et donc il fallait savoir qu'il faut craindre les sages quand même. Et Hashem et le Khatira. D'ailleurs, petite remarque, l'argument fondamental du christianisme, c'est qu'il vient introduire l'amour dans une société qui n'est pas pleine d'amour, qui avait sinatrinam. Or, c'est le même Rabbi Akiva qui a dit que le fondement de toute la Torah, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Vous avez remarqué la proximité, mais la proximité sans le danger. D'accord ? On dit aussi que quand on dit « et Hashem Elohecha Tira les rabot al-mid chachamim », c'est-à-dire « et tu craindras l'Éternel ton Dieu », ce qui vient inclure également les sages, on dit que ça veut dire que même les sages doivent craindre Dieu. Bon. Maintenant, nous allons passer à la bénédiction à venir. Vous n'avez même pas compris la vanne, mais ce n'est pas grave. « Ala tzadikim bala chassidim ». Il y a une bénédiction pour les justes. La bénédiction pour les justes, ça c'est bien ça, c'est quelque chose de positif. On demande quelque chose en faveur des tzadikim. Bon, mais prier pour les tzadikim, ça suppose quelque chose que... Dis-lui que je ne suis pas là. Ouais, c'est marrant comme son. Ouais. Donc, je reviens donc au fait qu'il y ait une prière pour les tzadikim. Al-ha-tzadikim. Nous prions pour les justes. Ça veut dire que les justes ont besoin qu'on prie pour eux. Ça veut dire qu'il y a une faiblesse des justes. Ils sont en danger, les justes. Bah oui, si on prie pour eux, c'est qu'ils sont en danger. On prie pour les malades, c'est que les malades ont besoin de guérison. On prie pour les tzadikim, c'est que les tzadikim ont besoin d'être aidés. Quoi ? C'est-à-dire à propos d'eux. Oui. Ou sûr. Al veut dire sûr. J'ai rien compris. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Comment tu comprends ça? Non. Pour bien comprendre, alors on va lire le texte. Ala tzadikim va la chassidim. Les tzadikim et les pieux. Ve'al shirit amcha bet Israël. Et pour le résidu de ton peuple, la maison d'Israël. Ve'al peletat bet Sofrem. Et pour ce qui reste de la maison de leur scribe. Certains rajoutent Val Ziknem pour leurs anciens, Val Gerea Tzedek et les convertis justes, Val Enou, Yehemuna Rahamecha, que ta miséricorde s'éveille. Ça veut donc dire qu'on demande quelque chose en faveur des tzadikim, des chassidim, etc. D'accord ? Alors, ça veut dire pourquoi est-ce que les tzadikim ont besoin que que Dieu leur soit favorable ? C'est-à-dire comme si les tzadikim avaient besoin plus que les autres, d'être protégés. Donc ça suppose qu'il y a un danger pour les tzadikim. Autre chose qui me préoccupe, c'est pourquoi est-ce que ça apparaît à ce moment-là de la prière. Non ? Oui, mais ah oui. D'ailleurs, ça demande d'expliquer également pourquoi est-ce que la birkat haminim est apparue au moment où elle apparaît. Ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que lors du retour d'Israël... Alors, il y a une remise en question des minimes. Mais ça voudrait donc dire que lors du retour d'Israël, il y a un danger pour les tzadikim. Vous avez compris? C'est quelque chose d'assez bizarre. C'est parce que ce qu'on a vu auparavant, c'est le retour de l'indépendance et le retour de nos institutions politiques et autres. Et à ce moment-là, il faut prier pour les tzadikim. Alors, ça fait penser un peu à la Shoah, effectivement. Mais pourquoi est-ce que les tzadikim sont en danger précisément à ce moment-là? Alors, il y a quelque chose de... Bon, ça se relie au problème de ce qu'on appelle la souffrance du juste. N'est-ce pas? Ou en hébreu, tzadik veralo. Il y a un tzadik pour qui ça va mal. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que le tzadik, ça va mal pour lui? Alors, il y a des tas d'interprétations qui ont été données, il y a toute une littérature autour de ça. C'est le problème de la souffrance du juste. Le tzaddik verra l'eau. Il y a. Comment Non, non, alors, ça c'est ta tentative de réponse. La Guémara dit que Moshe a posé la question à Dieu. Il y a un débat dans la Guémara pour savoir s'il a reçu une réponse ou pas. D'accord? Mais en tout cas, il faut bien définir qu'est-ce que c'est que le tzaddik veralo. Qu'est-ce que c'est le tzaddik qui souffre? Parce que c'est très rare qu'un tzaddik souffre. Par exemple, on raconte de Rabbi Zusia d'Anipoli, c'est un des grands maîtres du chassidisme, qui était quelqu'un qui avait beaucoup de malheur. Alors, un jour, il y avait un autre juif qui avait beaucoup de malheur, on lui a dit, écoute, ça serait la peine que tu en parles à Rabbi Zusia, parce que lui, il s'y connaît, puisque lui aussi, il a des malheurs. Alors le juif va voir Rabbi Zusia, il dit, voilà, Rebbe, on m'a envoyé chez vous parce que j'ai beaucoup de souffrance. Alors Rabbi Zusia lui dit, on a dû se tromper d'adresse, moi j'ai pas de souffrance. Parce que ça dépend si c'est important et ce qui n'est pas important. C'est-à-dire, comment? Oui, c'est-à-dire il s'en fichait pas mal en vérité. C'est-à-dire, quelqu'un a dit, oh, quelle souffrance, il manque du sel dans la soupe. Oui, mais l'autre, il s'en fiche pas mal qu'il manque du sel dans la soupe. Parce que ce qui est important pour lui, c'est de se dépêcher parce qu'il doit prendre son avion, par exemple. Donc le fait qu'il y ait du sel ou pas dans la soupe n'est pas un si grand malheur que ça. Tandis que pour un autre, c'est un gros malheur. Donc Rabbi Zusia. Donc le tzaddik, par définition, en principe, ne devrait pas avoir de souffrance. Or, pourtant, il y a des tzaddikim qui souffrent de leur souffrance. Il faut comprendre pourquoi. Oui. C'est pas comme ça qu'il faut réagir. C'est comme ça que les tzadikim réagissent. C'est-à-dire que pour le tzadik, il s'en fiche pas mal, d'accord? C'est comme, par exemple, il y a des gens pour qui, attention, s'il n'a pas de la brillantine dans ses cheveux, mais alors c'est une catastrophe, il ne peut pas sortir comme ça. Tandis que l'autre, il s'en fiche pas mal de la brillantine, c'est même pas ce que c'est. Donc, tu comprends? C'est comme ça que ça marche. Donc le tzadik, étant donné que ce qui l'intéresse, c'est la sagesse, la connaissance de Dieu, qu'est-ce que ça peut lui faire tout le reste? D'accord? Donc, et pourtant, il y a des tzadikim qui souffrent. Il doit y avoir une raison à cela. Alors, la raison pour laquelle les tzadikim souffrent, c'est quelque chose de beaucoup plus éthéré, c'est quand il y a un désaccord entre eux et la génération. Ce sont des tzadikim, mais pas de leur temps. Je prends ici un enseignement de Rabbi Nachman de Breslov qui dit que le tzadik verarlo, c'est le tzadik she'en al hakemoto, c'est-à-dire le juste. Dont l'opinion n'est pas en accord avec celle de la halakha. C'est-à-dire que la génération a décidé d'aller dans une autre direction que la sienne. Donc il y a un désaccord entre lui et le monde, et c'est ce désaccord qui lui fait la souffrance. D'accord? Mais comment se fait-il qu'il peut avoir un tzaddik qui est en désaccord avec sa génération? Très simplement parce qu'il vit à un moment où le monde change. Et au moment où le monde change, les critères de la justesse change. Donc, il est tzaddik, mais il est tzaddik d'une autre génération. Il correspond aux critères de la tzaddikout d'un temps révolu. Mais il s'est habitué à l'ancienne manière d'être tzaddik, il est incapable de s'adapter à la manière d'être tzaddik qui est nécessaire pour la génération qui vient. Oui ? Il peut être aussi en avance, il souffre aussi. D'accord ? Oui, il y a des tzadikim comme ça qui souffrent, parce qu'ils ont, ils ont un niveau de conscience qui n'est pas celui de la génération. Et quand est-ce que ça se passe, que le monde se transforme? Il y a deux cas essentiels. C'est quand on part en exil ou quand on sort de l'exil. Quand on sort de l'exil, on passe d'un moment où le tzadik doit passer de la dimension individuelle à la dimension collective. Alors, il reste tzadik, mais il est tzaddik à la manière individuelle, alors que c'est le temps du collectif. Alors il souffre. C'est pour ça que c'est le moment où on fait la prière, au moment où donc ont commencé les deux premières bénédictions, celle du retour en Israël et celle du retour des institutions politiques, et c'est le moment où il faut prier pour le tzaddik, parce que le tzaddik, il a tendance à rester dans son individualité au lieu de passer au collectif. Oui ? Oui, disons comme ça. Pendant l'exil, le tzaddik est surtout individuel. Je vais expliquer pourquoi. Il n'y a pas d'identité nationale. C'est complètement écrasé. Il n'y a plus d'État. Il n'y a plus de royauté. Qu'est-ce qui reste? Il reste une multitude de juifs qui est concentré autour de personnages extrêmement extraordinaires. Ce sont les tzadikim. Donc, le tzadik est mis en évidence pendant l'exil. Au moment du retour, le tzadik n'est plus en évidence, il fait partie du klal. Et donc, ce n'est pas facile à vivre, ça. Ça peut expliquer pourquoi le tzadik, parfois, va lutter contre le retour du klal. D'accord ? De certaines manières, oui. C'est-à-dire, le Zohar dit quelque chose d'extrêmement dur. Pourquoi est-ce que les explorateurs ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël ? Parce qu'ils allaient être remplacés par d'autres. C'est dur, oui ? Oh, j'en sais rien, je ne connais pas. Je ne connais pas les rabbins dont tu parles. Oui. Oui, pour qu'ils soient sauvés de ce problème. Et c'est pour ça, par exemple, lorsque la Torah dit que quand on a une question de halakha, il faut aller voir le juge. Il dit comme ça, « Uvata el hashofet asher yeh bayamim ahem » Tu iras voir le juge qui sera à ce temps-là. Qui sera en ce temps-là. Hein ? Quoi ? Oui, justement, c'est ça. C'est-à-dire, la Torah dit, tu iras voir le juge qui sera en ce temps-là. Alors, c'est une banalité. C'est évident que si je veux voir un juge, c'est qu'il est de mon temps. Alors, Rashi nous dit, El lecha el hashofet shebi amecha. Tu n'as que le juge qui est de ton temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aller voir le juge, mais pas n'importe lequel, celui qui est de ton temps. Et pas celui qui n'est pas de ton temps. Il ne comprend pas les critères de la génération. Il y a parfois une expression comme ça qu'on trouve dans certains discours de Moussard. Nous sommes une génération orpheline, d'oriatom. Alors ça veut dire quoi une génération orpheline ? Ça veut dire qu'ils ont des maîtres, ils ont des pères, mais ce sont des pères d'une autre époque. Et donc, il y a tout un travail à faire à ce moment-là. Il y a dans le livre de Bamidbar, les nombres. Hein, il y a une paracha qui parle du début de la sortie du désert. C'est la paracha de Hukat. Hukat. Là-bas, il est raconté deux petites histoires. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont racontées, mais il y a deux épisodes importants. Il y a un épisode qui est lorsque les Hébreux ont voulu passer à travers le pays de Édom. Alors, Moshe envoie des délégués au roi d'Édom pour demander le droit de passage à travers son pays. Et le roi d'Édom refuse, et donc Israël contourne son pays. Et puis après, il y a un autre passage où Moshe envoie des émissaires à Sichon, roi des Émoréens, Melech Haémori. Et Sichon refuse, Israël lui fait la guerre et conquit son pays. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est comment sont appelés. Comment est appelé celui qui envoie les émissaires ? Dans le premier épisode, quand on envoie au roi d'Édom, il est dit « Vaishlach Moshe Malachim ». Et Moshe envoya des émissaires au roi d'Édom. Quand il est question de Sichon, il est écrit « Vaishlach Israël Malachim ». Et Israël envoya des émissaires. Rashi explique qui c'est le Israël qui a envoyé des émissaires, c'était Moshe. Et pourquoi est-ce que Moshe est appelé Israël ? Parce que Moshe est le chef de sa génération, et le chef de la génération, c'est comme tout le klal en entier. C'est ce que dit Rashi. Alors, en ce cas-là, pourquoi, lorsqu'il envoie des émissaires au roi d'Édom, là-bas on dit Moshe ? Tandis que quand il envoie des émissaires à Sichon, on l'appelle Israël. Tout simplement parce que lorsqu'il envoie des émissaires au roi d'Édom, il est encore en exil, il est en Khouslaaretz. En exil, la personnalité individuelle du tzaddik est très évidente. C'est elle qui est mise au premier plan. Tandis que lorsqu'il envoie des émissaires à Sichon, il s'approche d'Eretz Israël. Et donc, quand on s'approche d'Eretz Israël, l'individu tzaddik se fond dans la masse. Il devient une partie du klal. Donc, il s'appelle Israël. D'accord ? Il y a des grands tzadikim en Eretz Israël, mais leur grandeur leur vient du fait qu'ils sont capables de s'annihiler au klal. Tandis qu'en Chutz La'aretz, il n'y a pas le choix. Le tzaddik, il est seul face à un monde hostile. Il doit être fort, il doit se mettre en évidence. D'accord ? C'est la différence. Donc c'est pour ça qu'on prie pour les tzaddikim au moment du retour. Alors qu'il y a retour de l'indépendance, qu'il y a retour des institutions politiques, que le christianisme est en chute, c'est le moment où il faut prier pour les tzaddikim. D'accord ? Donc, maintenant, il y a autre chose, ça c'est la faiblesse particulière des tzaddikim au moment de la Géoula. Il y a de toute manière une faiblesse permanente des tzaddikim. Il y a une faiblesse permanente des tzaddikim, mais il faut comprendre pourquoi. Vous savez, la Guémara dit que viendra un temps où le soleil sortira de son enveloppe. Ça veut donc dire que le soleil a une enveloppe. S'il y a... Dieu fera sortir le soleil de son enveloppe. Donc, le soleil, pour l'instant, est enveloppé. Et quand le soleil sortira de son enveloppe, il brûlera le monde. Comment ? Quoi, mon cher Abbé ? Oui, on peut dire ça aussi. Mais en tout cas, viendra un temps donc où le soleil brûlera le monde, et les méchants seront brûlés, et les justes guériront. Alors, ce sera un soleil de guérison qui guérira les justes. Alors, ce n'est pas très clair. D'abord, ça veut dire que les justes, a priori, sont malades, s'ils ont besoin de guérir. Or, je connais des justes qui sont en bonne santé. Et je connais des méchants qui sont malades. Donc, ce n'est pas très clair ce que dit la Guémara. Les méchants seront brûlés et les justes seront guéris. Hein ? Oui, alors, le soleil, c'est le même soleil. Alors, ça veut dire quoi, le soleil ? Le soleil, c'est ce qui permet de voir. Et c'est de voir la vérité. Or, de nos jours, la vérité est enveloppée. C'est-à-dire, le monde cache ce qu'il est vraiment. Et donc, il se passe quelque chose de terrible. Les tzadikim vivent en fonction de valeurs morales, alors que dans la réalité, ce qui se passe, c'est le destin. Aveugle. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, le monde ne fonctionne pas en fonction de la morale. Par exemple, vous êtes assis sur un banc et vous voyez un juste qui glisse sur une peau de banane. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se casse la jambe. D'accord ? Alors, vous qui êtes un bon juif, vous vous dites ça, mais enfin, c'est pas possible, c'est un tzaddik. Pourquoi il s'est cassé la jambe ? Et à côté de vous, sur le même banc, est assis un grec. Et le grec, il sort un calepin, il écrit « Théorème, toute personne glissant sur une peau de banane selon un angle donné se casse la jambe. » Il a découvert une loi de la nature. Tout content, il la met là. Et il regarde le juif comme un fou. Et le juif, il dit « Mais enfin, ça va pas. C'est injuste. La peau de banane aurait dû en tenir compte. » Donc, il y a ici un problème. Il y a le tzaddik est malade du fait qu'il vit dans un monde qui est contraire à ses propres valeurs. Mais un jour, le soleil va sortir de son enveloppe. La vérité sera claire. Alors, les méchants seront brûlés et les justes vont guérir de cette maladie-là. C'est-à-dire que le juste est toujours malade de l'état du monde. Oui, oui, c'est-à-dire que la nature deviendra transparente. Non, il y aura la nature, mais la dimension morale de la nature sera transparente. D'accord ? D'où la fameuse expression « j'en suis malade ». Ben voilà, c'est là. Donc, « ala tzadikim vala chassidim ». Pour ce qui est... Oui. Ben, ça veut dire que le méchant est brûlé du fait qu'il se rend compte que toute son échelle de valeur était fausse. C'est lui qui est en désaccord avec la réalité, donc ça le brûle. « Ala tzadikim vala chassidim ». Pour les justes et les pieux. C'est quoi un tzadik exactement ? Un tzaddik. C'est celui qui fait le bien et qui ne fait pas le mal. C'est la définition du tzaddik. Bien. Vous voulez savoir si quelqu'un est tzaddik ou pas ? Il faut savoir. Il fait le bien, il ne fait pas le mal, c'est un tzaddik. C'est pas comme ça, c'est pas un tzaddik. C'est la définition. Ça existe, bien sûr. Tout le monde fait des averot. Le tzaddik qui fait tachanoun, tu crois que c'est sérieux ? Il dit, voilà, j'ai tué, je me suis débauché, j'ai fait ça, pas, non ? Il fait ça au nom du clan, c'est vrai que c'est au pluriel. Le tzaddik, bien sûr ça existe, le tzaddik. Non. Oui, non, il y a ça aussi, mais c'est la définition, disons, légale du tzaddik, c'est ça. C'est celui qui veut le bien, qui ne veut pas le mal. Et donc, c'est pour ça qu'il est en permanence en teshuva. Mais, même si quelqu'un fait un péché, qu'est-ce que dit la halakha? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a fait un péché? Teshuva. Dès qu'on fait teshuva, on redevient tzaddik. D'accord? Donc, le tzaddik, ça existe. Il y en a même plusieurs. La preuve, c'est que c'est au pluriel ici. D'accord? À la tzaddikim. C'est quoi des chassidim? Non, ça c'est le mot chesed, c'est vrai que ça ressemble. C'est celui qui fait plus. Bien. Le tzaddik, c'est celui qui fait le bien. Le chassid, c'est celui qui fait plus que le bien. Il en fait plus. D'où le danger d'ailleurs du chassid. Parce que le chassid peut se tromper dans ce qu'il rajoute. Faire bien attention au chassid ascétique.
Oui. Hein?
Ah, parce qu'on va, selon l'ordre montant. On va voir par la suite. Valchiri d'un prophète d'Israël. Et ce qui reste de ton peuple, la maison d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est encore plus grand que les chassidim. Le clan, c'est encore plus grand. Oui? Hein? Ça dépend, justement. Est-ce que c'est interdit de rajouter? Parfois, c'est interdit. Il faut faire attention. Par exemple, quelqu'un, voilà, me dit, j'ai soif, j'aimerais bien un verre d'eau. Mais je sais très bien qu'il voudrait un verre de Coca-Cola. Alors je lui amène un verre de Coca-Cola. J'ai fait plus que ce qu'il m'a dit. C'est bien ou pas bien? C'est très bien. Mais si je me trompe, qu'en fait il ne l'aime pas le Coca-Cola et qu'il veut un verre d'eau, j'ai fait une gaffe. D'accord? Donc il faut savoir la direction du rajout. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Alors il y a parfois le chassid, il peut faire une catastrophe. C'est ce qu'on appelle le chassid choté. Alors c'est pour ça que pas tout le monde peut être chassid. Il faut avoir une sorte de sens des choses. Non, tu confonds ici avec les chassidim dans le mouvement chassidique. C'est pas ça dont on parle. C'est-à-dire le mot, cette prière a été instituée bien avant la naissance du mouvement chassidique. D'accord? Le chassid, ça veut dire le pieux, c'est-à-dire celui qui en fait plus. D'accord? Ça, le chassid. Valchiri tamra bet Israël. Alors, le reste, c'est bizarre cette expression quand même, le reste de ton peuple, la maison d'Israël. Alors, on ne peut pas dire le peuple d'Israël, point à la ligne, c'est quoi le reste de ton peuple, la maison d'Israël? Eh bien, c'est parce que nous sommes un reste. Un reste de quoi? Vous saviez qu'à l'origine, il y avait les 12 tribus, n'est-ce pas? Il n'en est resté que deux. Yehuda et Binyamin. Donc, nous autres, les Judéens juifs, juifs judéens, nous sommes ce qui reste de la maison d'Israël. D'accord? Et ce reste, donc, il est en danger du fait qu'il est un reste. C'est-à-dire qu'étant donné que nous n'avons pas toutes les manières d'être Israël, mais que nous n'avons qu'une partie, alors ça nous déséquilibre. Nous ne sommes pas vraiment ce que nous devrions être. Oui? Et le reste et les autres.
Voilà.
Non, alors dans ce cas, on dit Val She'ar. Si c'était vraiment le reste dans ce sens-là, le mot serait She'ar. Il y a écrit She'erit. She'erit, c'est ce qui reste de deux. C'est-à-dire, ça veut dire un résidu de quelque chose de plus grand qu'il y avait auparavant. D'accord? Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes donc des rescapés de rescapés. Nous ne sommes plus ce que nos ancêtres étaient, et nous ne sommes même pas ce que nos ancêtres étaient en tant que rescapés. Nous sommes des rescapés de rescapés. Et c'est donc très difficile d'être à la fois un résidu et pourtant inclure en soi tout ce qu'il faut, toutes les dimensions. Par exemple, du temps du premier temple, il y avait deux royautés. Il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Éphraïm. Éphraïm a disparu. Alors, ce que ça crée lors du retour d'Israël, ça cause une polarisation au sein de Juda. Et c'est ce qu'on appelle les religieux et les laïcs. Datim et Chilonim. Alors, les Datim essayent d'être Yehuda, les Chilonim essayent d'être Ephraim. Mais tout ça, ça se passe au sein de Yehuda. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est une sorte de différenciation intérieure. Nous faisons un travail pour lequel nous ne sommes pas faits. D'accord? C'est pour ça qu'il y a l'espérance du retour des tribus perdues. Et alors, l'identité d'Israël sera très différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Elle inclura évidemment l'identité juive, mais quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Oui? Alors, un juif, c'est pas Yehuda et Binyamin, c'est un descendant des judéens. Les Judéens étaient les ressortissants du royaume de Juda en exil. D'accord ? Alors, dans le royaume de Juda, il y avait effectivement des représentants des autres tribus aussi. Il y avait de toutes les tribus. Mais la dominante était judéenne. Mordechai, par exemple, qui était un binyaminite, était quand même un Yehoudi. D'accord ? Ve'alpeletat betsofrehem est pour ceux qui sont rescapés de la maison de leur scribe, c'est-à-dire les chachamim. Il y a ceux qui restent de la chokhma. Ce qui est supposé là, c'est que la chokhma, la sagesse, va en se dégradant de génération en génération. Ve'algeret tzedek, ainsi que pour les convertis en justice. Ve'alenu et pour nous. C'est-à-dire, c'est quoi les convertis en justice? C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont sincères, des bons guérim. Mais attention, il y a dans la Guémara une autre expression à propos des Samaritains. Vous savez ce que c'est les Samaritains? Les Chomronim. C'est quoi les Chomronim? Exactement, c'est une peuplade qui était venue peupler la Samarie après l'exil du premier du royaume d'Israël, hein, avant la destruction du premier temple encore. Avant la destruction du premier temple, le royaume d'Israël a été détruit par les Assyriens. Ils ont amené une autre population qu'on appelle les Chomronim. Hein? Les Lions, etc. Oui. On les appelait également les Koutim à cause de la ville de Kouta dont ils venaient. Les Samaritains étaient au nombre de 1 million à peu près à l'époque du deuxième temple. Aujourd'hui, il y en a 2000. Ouais. Il fut une époque où il y en avait 200. D'accord? Oui, alors bon, en tout cas, donc il y a un débat dans la Guémara pour savoir si la conversion des Samaritains était sincère ou pas. Alors, il y a un texte dans la Guémara qui dit que leur conversion était sincère, d'après une des opinions. On les appelle là-bas Guéret et Met, des convertis en vérité. Et tandis que là, on dit Guéret Tzedek, des convertis en justice. Quelle est la différence entre les deux expressions? Parce que pour ce qui est des prophètes, on les appelle Nivié à Emet et à Tzedek, les prophètes de la vérité et de la justice, n'est-ce pas? Avant la Haftara. Et le Rav Kook explique dans son commentaire sur cette Agada, il dit, il y a deux motivations à la conversion. Il y a ceux qui se convertissent parce qu'ils veulent la justice sur terre. Ils se rendent bien compte que c'est par le peuple juif que ça passe. Donc, épris de justice qu'ils sont, ils se convertissent. Et il y en a d'autres, dit le Rav Kook, qui sont intéressés par la vérité. Ils veulent la Torah parce qu'ils savent que la Torah c'est vrai. Mais ils s'en fichent pas mal du peuple juif. C'est les Samaritains. Ce sont les Guéret Emet. Ils se convertissent à cause de la vérité, mais pas à cause de la justice. C'est-à-dire que, tout problème à savoir, est-ce que quand on s'associe au peuple juif, c'est par amour du peuple d'Israël ou uniquement par amour de sa Torah? Ce qui a une conséquence très grave. Oui. Par exemple. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui, Shalom.